Bienvenue, chers auditeurs, vous écoutez Magnificat, l'émission du groupe Marie de Nazareth, dont l'association Marie de Nazareth est heureuse de vous accompagner durant une demi-heure. Nous écouterons ensemble Justina, qui nous parlera des deux fils d'Abraham. Bonjour Justina.
Bonjour.
Suivront donc les commentaires sur ce texte saint. Ensuite, en deuxième partie d'émission, alors nous avions entamé la semaine dernière les miracles eucharistiques avec Patrick Sbalchero. C'est reparti Patrick, bonjour Patrick.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes historien, auteur et journaliste et toujours le bienvenu dans cette émission.
Un grand merci.
Si vous souhaitez retrouver toutes nos émissions antérieures, vous pouvez vous rendre sur le site mariedenazareth.com dans l'onglet Nos actions et vous verrez apparaître tout à droite le mot podcast. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Je voudrais faire une petite précision. Je vous avais promis quelque chose la semaine dernière, je ne vous l'ai pas dit. Pour les miracles eucharistiques, vous pouvez aller justement sur le site Marie de Nazareth. Vous verrez tout ce que nous appelons les newsletters, pardon, Radio Courtoisie, que nous envoyons. Et vous pouvez vous abonner à un mail quotidien ou hebdomadaire sur les miracles eucharistiques. Vous verrez. Tous les jours, vous aurez une présentation de ce miracle. Alors, Justina, plongeons à présent dans la lecture de
l'épître de Paul aux Galates.
Aux Galates. Merci.
Donc, aujourd'hui, parmi les lectures bibliques possibles, j'ai choisi ce qu'on appelle l'apôtre du jour chez les orthodoxes. Mmh. Elle correspond à un fragment d'une épître lue aujourd'hui dans les paroisses orthodoxes qui suivent l'ancien calendrier. Malheureusement, ou pas, allons savoir, l'exégèse des épîtres de Paul est souvent délaissée lors des homilies, peu importe la confession chrétienne. Et on va faire aujourd'hui comme si nous étions dans la paroisse que je fréquente.
Chouette.
C'est-à-dire que je vais lire l'apôtre du jour de manière traditionnelle, et ensuite je vais le commenter. Lecture de l'épître aux Galates. Frères, il est écrit en effet qu'Abraham a eu deux fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair, celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique, les deux femmes sont les deux alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar la servante. Agar est le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à Jérusalem actuelle, elle qui est esclave ainsi que ses enfants. Tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. L'Écriture dit en effet, « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cri de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Et vous, les frères, vous êtes comme Isaac, les enfants de la promesse. Mais de même qu'autrefois le fils engendré selon la chair persécutait le fils engendré selon l'esprit, de même en est-il aujourd'hui. » Or, que dit l'Écriture ? Renvoie la servante et son fils, car le fils de la servante ne peut être héritier avec le fils de la femme libre. Dès lors, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, mais nous sommes ceux de la femme libre. Donc, ici, Paul fait référence au livre de la Genèse, où Sarah, n'ayant pas assez de patience d'attendre la réalisation de la promesse divine, essaye de régler le souci d'absence de descendance d'Abraham de manière coutumière, connue dans leur cité d'origine. Comme vous le savez, Abraham est sorti de la ville d'Ur chaldéenne en Mésopotamie. Si vous lisez le code du droit civil le plus ancien au monde, connu comme le Codex des lois d'Amourabi, vous saurez que ce texte de loi provient de la cité d'Ur, et que Sarah ne fait que suivre la démarche décrite dans ce code de loi. En effet, si la femme légitime ne peut enfanter, elle peut proposer à une servante esclave afin qu'elle porte l'enfant. N'oublions pas la perception antique de la femme, nous en avons parlé il y a un an, car on ne considérait pas la femme comme co-créatrice du bébé, mais seulement comme porteuse de la sémence du mari. À côté de cela, la servante ne peut prétendre au statut marital égal de la femme légitime et l'enfant en question perd tout droit à l'héritage si la femme légitime enfante plus tard. C'est exactement ce qui s'est produit plus loin dans le texte et c'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul. On y retrouve encore ce refrain biblique « les premiers seront les derniers » et inversement, qui s'oppose à la logique païenne selon laquelle il suffit d'être premier-né afin d'hériter de tout. contrairement aux dieux païens qui, selon leur mythologie respective, favorisent toujours les premiers, les plus forts. Le dieu d'Israël met en avant les petits derniers qui semblent souvent insignifiants aux premiers abords. Pour Paul, ce conflit entre les premiers de chair et les premiers de l'esprit reste d'actualité, non pas par la haine des juifs, Paul lui-même est juif, pharisien et circoncis, mais par observation de ce mécanisme anthropologique qui nous rattrape en permanence. Dans les temps de la Genèse, la femme esclave symbolise la coutume païenne. Dans les temps de Paul, c'est la femme légitime et sa descendance deviennent prisonniers de la coutume. Au temps de Paul, c'est le tout début de l'Église dans l'histoire et le conflit tourné entre les juifs devenus chrétiens et les ex-païens devenus chrétiens. Les judéo-chrétiens cherchaient à assimiler culturellement et cultuellement les nouveaux convertis en leur imposant l'observance de la loi de Moïse, et Paul et ses disciples s'y sont farouchement opposés. Heureusement, sinon le christianisme se serait éteint comme tant d'autres sectes messianiques. Aujourd'hui, nous avons d'autres problèmes et défis, mais qui dans le fond restent les mêmes. Pour devenir catholique romain, faut-il devenir français, espagnol, italien, qu'en sais-je? Ou bien nouveau converti, peut-il rester ce qu'il est? Et dans quelle mesure? Pareil pour nous orthodoxes. À quoi bon tenter d'imposer aux convertis français des coutumes russes, grecques ou serbes? Sommes-nous avant tout chrétiens ou juste les enfants d'une esclave, c'est-à-dire de la coutume?
Merci beaucoup, Justina. À présent, écoutons ce très beau chant d'adoration, « Jésus mon roi » tiré de l'album « Voici ce cœur » chez Emmanuel Music.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors Patrick, continuons notre voyage au sein des miracles eucharistiques. Nous avons vu la dernière fois que ce que nous entendons par là, ce sont c'est aussi bien une hostie sanglante, mais ça peut être un visage, un dessin qui peut apparaître sur l'hostie, l'attitude d'un animal face au Saint-Sacrement, encore une conversion, un cœur à cœur avec Jésus-hostie, mais alors l'hostie face aux éléments qui peuvent être conjurés.
Oui, c'est là aussi un type de miracle eucharistique. Alors, il y a globalement deux événements, deux catastrophes, entre guillemets, qui sont présentes dans les documents. Ce sont les tempêtes, les pluies diluviennes, etc., qui sont, et puis parallèlement, souvent aussi des fortes chaleurs, des canicules.
Ah oui. Ouais.
Et en arrière-plan, vous avez ce que l'Église appelait autrefois la prière des rogations.
Oui.
Vous savez.
Très bien.
La prière des rogations. Donc, dans les campagnes,
à la Saint-Philippe, Saint-Jacques.
Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et donc, il y avait là aussi une bénédiction eh bien, des récoltes, en particulier des champs avec le Saint-Sacrement. Dans l'histoire, il y a eu des miracles eucharistiques, vraiment, hein, de cet ordre. Et puis alors, à côté de cela, vous avez aussi des miracles qui se sont manifestés lors d'incendies. Ça, c'est quelque chose qui revient de manière assez récurrente. Incendie d'un endroit et d'une église, par exemple, d'un monastère, etc. Et on amène le Saint-Sacrement, bénit l'endroit, et il est arrivé que l'incendie s'éteigne de manière, on va dire, non naturelle. Ah. Voilà, donc ça, il y a des choses qui ont été vraiment remarquables. Je prends un exemple très connu, c'est Favernet.
Oui.
Bien sûr, en France.
Dans l'Est.
Voilà, près de Dole, hein, près de la ville de Dole. On est au mois de mai 1608. Et au mois de mai 1608, eh bien, vous avez un monastère Notre-Dame de la Blanche, qui subit un grave incendie, hein, puisque les flammes sont vraiment en train de ravager toutes les structures du bâtiment. Eh bien, une soixantaine de personnes, une soixantaine de témoins ont juré, témoigner sous serment, donc on n'est pas dans n'importe quoi, hein, avoir vu l'ostensoir à Favernet, contenant donc l'hostie consacrée qui était apportée, suspendue dans les airs pendant 33 heures.
33 heures.
Pendant 33 heures. Ça fait long. Oui. Déjà, pendant 3 minutes, ce serait long.
Oui.
Mais 33 heures. Donc, voilà. Et le miracle a été reconnu 3 mois plus tard, par l'évêque de Dole, en juillet 1608.
Oui, 33 heures, il y a dû y avoir du monde.
Il y a eu du monde, il n'y en a pas eu tant que ça, parce que bon, nous sommes quand même au début du XVIIe siècle, les médias que nous connaissons n'ont pas pu alerter, évidemment, l'Internet n'existe pas, le JT non plus, donc mais il y a eu du monde, mais il y a eu du monde. Et une soixantaine de témoins, les premiers témoins, ont témoigné sous serment.
Est-ce que cet ostensoir est toujours à Favernet?
Alors,
ils l'ont déplacé.
Il a été, si mes souvenirs sont exacts, il a été déplacé, il a surtout été remplacé, il me semble-t-il. Ah. Il a été visible jusqu'à une date relativement récente, mais je crois qu'il a été changé, oui.
Alors ça, c'est toujours quelque chose qui m'étonne, parce qu'on n'a pas envie de voir le remplaçant.
Non, on a envie de voir l'original.
Mais oui, bien sûr.
Et oui.
Il y a des tas de choses comme ça.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'on ne les mettrait pas sous vitrine? Enfin, si il faut les protéger, mais...
Alors, il faut les protéger, bien sûr.
Mais
les...
ils sont volés, peut-être, quelquefois, les...
Alors, parfois, ils sont volés. Parfois, ils sont volés. Quand il s'agit d'hosties miraculeuses, par exemple, des hosties qui ont été retrouvées intactes après un séjour dans un cours d'eau, par exemple, dans une rivière... Là, il arrive même parfois que ces hosties-là soient consommées. Ça peut arriver aussi. Maintenant, en général, plus le temps passe, plus si le miracle est reconnu, plus on a tendance à les installer dans de beaux reliquaires, des reliquaires de plus vraiment que dignes de ce nom. Et c'est pour ça que les anciens sont changés.
Oui.
Voilà, c'est tout.
Oui. Hein. Et la révolution est passée par là aussi.
Alors, et les événements politiques, bien sûr, sont passés par là. La révolution a fait quelques ravages de ce côté-là. Et donc, voilà, nous avons hérité quand même de beaucoup de choses, mais il en manque.
Oui.
Il en manque à l'appel un peu.
Oui. Ouais. Alors, il y a un torrent qui s'est arrêté, séparé en deux, à Pibrac.
Voilà.
Ça, c'est quand même étonnant.
Pour le moins, oui.
Une hostie retrouvée intacte dans des cendres.
C'est ça.
Il y a quand même de drôles de choses. Il y a cette hostie, alors j'aimerais bien qu'on en parle, s'il vous plaît, qui est arrivée à la Brardière. Mère Yvonne Aimée de Malétroit a vu se poser une hostie sur une branche.
Alors, oui, oui, oui. Alors, Mère Yvonne Aimée de Malétroit a été témoin direct, avec un D majuscule, de plusieurs phénomènes eucharistiques incroyables.
Oui. Alors, nous avions parlé d'elle pour la bilocation avant l'été, enfin au tout début de l'été. Oui. Mais donc, il lui est arrivé finalement tout ce que... En fait, on a l'impression que c'est un condensé de ce qui peut arriver au sein.
Ah,
alors qu'elle n'est pas canonisée.
Non, 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 ni même béatifiée. Le procès est en cours. Oui. Hein, le dossier est arrivé à Rome, mais bon, voilà, le procès est en cours. Oui, plusieurs témoins, là aussi, et des gens vraiment très dignes de foi, ont vu ce qu'on appelle des apports, c'est-à-dire en fait une matérialisation,
oui.
une apparition, si vous voulez, d'une hostie entre ses mains ou sur ses lèvres.
Mère Yvonne Aimée
de Malétroit. C'est donc absolument impensable. Il n'y a pas d'explication là naturelle. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas. Et à plusieurs fois, le phénomène est arrivé. Ce n'est pas évidemment la seule mystique, on va dire, à qui c'est arrivé. Il y en a d'autres.
Les petits enfants de Fatima, non ? Et qui ont communié avec l'ange du Portugal.
Oui, tout à fait, tout à fait. En 2015, il y a eu cela.
2015 ?
Je crois que c'était... 1915. Oui, non, n'anticipons pas.
C'est comme moi, je dis à mercredi prochain au lieu de dimanche prochain.
Voilà, n'anticipons pas. 1915.
Oui.
Et donc, il y a eu d'autres bienheureux et d'autres saints qui ont vécu ces prodiges eucharistiques. Hein.
Marthe Robin ?
Marthe Robin, également, a eu ce qu'on appelait des communions miraculeuses, selon des témoins. Elle a communié sans que personne ne lui apporte aucune main humaine, bien sûr. Aucune main humaine lui apporte l'hostie.
Alors, j'ai une question piège. Est-ce qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller à la messe parce que c'est interdit et où certaines personnes ont pu communier comme ça, miraculeusement? On a entendu parler de choses comme ça. Je ne sais pas, je pense aux chrétiens des montagnes, au Japon. Enfin, vous voyez, des civilisations...
Oui, je comprends.
Peut-être.
Alors, j'ai entendu des informations dans ce sens.
Oui, ah bon ?
Oui, j'ai entendu des informations dans ce sens. Mais je crois que les cas sont très peu documentés. Il nous reste peu de sources.
Quoi que ce
mais
soit
j'ai entendu ici et là, des récits qui vont dans ce sens.
Alors si je vous pose la question, c'est parce que je sais que vous connaissez beaucoup de choses et que vous êtes vraiment le spécialiste et que je sais que vous avez des informations de temps en temps. Donc voilà.
Rien de très précis.
Oui.
Il s'agirait de choses quand même très anciennes.
Oui.
Donc avec les choses anciennes, parfois il faut être aussi très prudent. Voilà.
Oui. Bien sûr, oui. Alors, les saints et l'Eucharistie, donc, on parlait de Marthe Robin tout à l'heure, qui ne s'est pas nourrie pendant des années, mais qui n'a vécu que de l'Eucharistie. Teresa Neumann aussi, non ?
Teresa Neumann, bien sûr. Oui. Alors, il y en a eu... depuis le Moyen-Âge, j'allais dire, quand même une grande quantité.
Oui.
Hein. Alors là aussi, grande prudence.
Fais attention, oui.
Non pas qu'il faille jeter, bien sûr, s'entourer de méfiance pour les choses plus anciennes, médiévales, disons-en, mais les moyens de contrôle n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant. Louise Lato aussi en Belgique.
Alors, c'est la première fois que j'entends son nom.
Ah bon, non, mais.
Dites-moi.
Thérèse Neumann. Tous ces gens-là, toutes ces personnes ont vécu simplement donc du Saint-Sacrement.
D'accord.
Et souvent pendant des années.
Oui.
Souvent pendant des années.
Et reparlez-nous de Louise Lato.
Ah,
en Belgique, c'était il y a longtemps.
Non, c'est au deuxième partie du 19e siècle.
D'accord.
Voilà. Et elle a été examinée, alors non pas sous toutes les coutures, mais tout de même, on a essayé de comprendre comment fonctionnait son ce qu'on appelle l'inédit, c'est-à-dire l'absence d'alimentation avec seulement donc cette communion eucharistique. Et on a globalement pas d'explication.
Oui.
Dans les protocoles scientifiques, on peut peut-être trouver des failles. Ça, bien sûr, bon, c'est pas sûr à 100%. Voilà. Est-ce qu'il y avait un truc ou pas ? Non, on n'a rien trouvé. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'en sait pas tellement plus.
Actuellement, est-ce que ce genre de cas existe ?
Oui, incontestablement, oui.
D'accord.
Incontestablement, oui. Ce sont des cas comme les gens stigmatisés, extrêmement difficiles de les approcher, de les vérifier. Souvent, pas tout le temps, mais souvent à l'abri des cloîtres, tout de même,
ah,
dans les
oui.
milieux religieux. Mmh. Et en général, comme disait saint François de Sales, le bien ne fait pas de bruit.
Oui, oui, oui. C'est sûr qu'actuellement, ce serait tellement extraordinaire que ce serait compliqué à gérer.
Oui. Ce sont des choses qui existent.
Oui, oui. Alors, on oublie que les rayons que sœur Faustine voyait sortir du cœur de Jésus, parce qu'on voit maintenant ce tableau fleurir dans très nombreuses églises, c'était aussi le symbole de la vertu régénératrice de l'Eucharistie. Le père jésuite Henri Ramière, grand apôtre de cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, a bien dit « C'est dans l'Eucharistie que nous trouvons actuellement le cœur de Jésus le plus près de nous. C'est dans l'Eucharistie qu'il s'unit de la façon la plus intime à nous et nous à lui. » C'est un peu ce que nous disait Charles de Foucault la semaine dernière.
Je crois qu'il n'y a pas de saint qui ait dit le contraire.
Oui. Parlons de Carlo Acutis,
oui.
Donc le saint de l'Eucharistie.
Oui.
Il voulait amener, je pense déjà, les jeunes à pratiquer, à aller à la messe et à communier. Il a fait une magnifique exposition.
Exposition sur les miracles eucharistiques dans le monde.
Voilà.
Exposition itinérante.
Alors, parlez-nous un peu plus de Carlo Acutis, parce que je pense que c'est vraiment le bienheureux bientôt saint dont on entend le plus parler actuellement.
C'est vrai.
Parce qu'il est tellement contemporain.
Voilà, très contemporain. Mm. Les médias vraiment ont braqué les projecteurs, en quelque sorte, sur
oui.
lui. Il est donc mort à l'âge de 15 ans d'une
oui.
leucémie. Et c'était qu'on appelle un geek,
oui.
un petit génie de l'informatique,
oui.
et il a mis son talent, un technique, technologique, au service de la foi, et il a effectivement monté toute une exposition virtuelle sur les miracles eucharistiques qu'il a
oui.
pu recenser. Et c'est vraiment quelque chose de très 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 bien fait, très bien fait, avec des résumés, quelques images, et c'est une première, tout de même, c'est
oui.
une première. Et alors donc, c'est un site internet à lui tout seul, et chose très étrange, mais c'est ainsi, le premier miracle pour sa béatification a été identifié, étudié et reconnu assez rapidement.
Avec un lien avec l'Eucharistie ou pas du tout?
Non.
D'accord.
Il s'agit d'une guérison. Non,
oui.
bien sûr, il s'agit d'une guérison, comme
d'accord.
d'ailleurs 98% des miracles actuellement reconnus. Mmh. Et donc, on est face à presque un phénomène Carlo Acutis, moi je trouve.
Oui.
On en parle à travers le monde. À travers le monde. Et il est vrai qu'il est l'expression d'une sainteté très contemporaine.
Et puis, sa maman est très présente, puisqu'elle nous parle de son fils, avec beaucoup de simplicité. Elle est très touchante.
Mmh.
C'est vraiment amusant, c'est l'apôtre de son fils.
Mais c'est ça, et puis il faut s'imaginer sa maman présente dans la cérémonie de béatification.
Quelle émotion.
Incroyable, quand même. C'est
oui.
assez fort, quand
oui.
même.
Oui, oui, oui. oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ces miracles eucharistiques?
Il défie notre imagination,
oui.
mais il défie aussi notre entendement. Et il faut les percevoir non pas comme des prodiges simplement avec tout ce côté un peu merveilleux,
oui.
etc., un peu sensationnel comme on a tendance à le voir. Il faut vraiment voir la signification, l'expression spirituelle qu'il revêt. Et il renvoie au Christ. Il renvoie
oui.
au Christ, il renvoie à la passion du Christ. Et s'il renvoie à la passion du Christ, il renvoie aussi à la résurrection.
Oui. J'ai juste une petite question, s'il vous plaît. Vous disiez la dernière fois que parfois, ces hosties deviennent des morceaux de chair. Si je ne me trompe pas, des morceaux de myocarde?
Tout à fait. De muscles cardiaques.
Oui. Donc on revient au cœur de Jésus. Oui.
Au cœur de Jésus, voilà. On peut établir oui. un lien là-dessus. Et ces morceaux de chair ne subissent pas de détérioration biochimique comme
oui.
naturelle, comme n'importe quel morceau de chair. Ils sont conservés dans la longue durée. Et ça, c'est vraiment
incroyable.
Sans aucun moyen, évidemment, de conservation, de momification, de traitement.
Oui.
Donc, voilà, c'est incroyable quand même. C'est,
oui. bon. Mm. Eh bien, écoutez, c'était très intéressant. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je pense que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je vous renvoie vers les livres de Patrick Sbalchiero. Et puis, nous continuerons la semaine prochaine avec tout autre chose, mais toujours Patrick. Merci. Et merci,
merci
Justina. Est-ce qu'on
merci.
Aura droit à un très beau texte chanté? Franchement, je vous remercie parce que c'était très beau. J'avais envie d'applaudir, j'ai pas osé.
Mais là, ça va être un texte tiré de la messe Paul VI, donc...
Plus difficile à interpréter.
Voyons voir.
Eh bien, on va voir. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Merci.